Vous écoutez France Culture.
Les lundis de l'histoire présentés cet après-midi par Roger Chartier. L'intolérable monstruosité qu'est l'esclavage n'a pas empêché la présence de cette réduction de la personne humaine à l'état d'une marchandise qui peut être achetée, vendue, échangée, héritée, dans de nombreuses sociétés, dans les différentes parties du monde et, pour certains pays, jusqu'à la fin du XIXe siècle. On peut rappeler en effet que l'esclavage n'a été aboli dans les États du Sud des États-Unis qu'en 1865, à Cuba seulement en 1886 et au Brésil seulement en 1888. Les injustices et les violences de ce passé ont laissé des traces vives, douloureuses, dans les mémoires des peuples et des communautés qui en ont été les victimes. Les souvenirs de ces souffrances, qui blessent l'humanité tout entière, doivent être reconnus, respectés. Rappeler. La tâche des historiens n'est donc pas une tâche facile lorsqu'ils entreprennent d'écrire une histoire ou des histoires de l'esclavage fondées sur des documents authentiques, fondées sur l'archive et fondées sur des méthodes d'analyse qui sont celles propres à leur discipline. Ce travail de connaissance peut parfois ne pas correspondre aux exigences par ailleurs légitimes des lectures mémorielles. Il est inscrit dans son propre ordre, celui d'un savoir prouvé, contrôlé, vérifié. C'est à la construction de ce savoir que, dans ces dernières décennies, se sont attachés des historiens européens, américains et africains. Et c'est dans ce projet nécessaire que s'inscrit le livre qui nous retiendra cet après-midi dans ce lundi de l'histoire. Ce livre est publié par les éditions La Découverte et il a pour titre « Être esclave, Afrique, Amérique, 15e, 19e siècle ». Ces deux auteurs présents cet après-midi pour le présenter sont Catherine Kokri-Vidrovitch, professeure émérite à l'Université Paris-Diderot, et Éric Ménard, professeur d'histoire et géographie à l'Université Paris-Est-Créteil. L'ouvrage a été préfacé par un historien africain, professeur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ibrahima Tioub, auteur lui-même de plusieurs articles et ouvrages consacrés aux traites atlantiques et africaines. Je commencerai par deux remarques que fait Ibrahima Tioub dans sa préface. D'une part, il écrit que ce livre, je le cite, a pour objectif de remettre en cause la perspective dominante de l'historiographie de la traite atlantique des esclaves. Et il justifie cette affirmation en disant, pour ce faire, il reconnecte les différents maillons de la chaîne atlantique qui démarrent de l'intérieur du continent africain et aboutit aux mines et plantations américaines. Alors, Catherine Kokri-Vidrovitch, est-ce que vous reconnaissez votre projet dans ces deux remarques de Ibrahima Tioub?
Tout à fait, parce que ce que nous avons voulu faire, c'est moins une histoire de l'esclavage qu'une histoire des esclaves. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup travaillé avec les récits, tous les récits que l'on continue de trouver d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne peut penser. Maintenant, on en a probablement plusieurs centaines, mais évidemment de façon différente selon les périodes, qui nous permettent de retracer effectivement l'itinéraire de ces esclaves, dont la très grande majorité ont traversé l'Atlantique, mais n'ont pas mis les pieds en Europe, par exemple. Il y a eu un certain nombre d'esclaves, plusieurs milliers d'esclaves qui sont allés en Europe, mais incomparablement, ceux qui ont traversé l'Atlantique, essentiellement, ce sont des esclaves entre l'Afrique et l'Amérique. Et c'est donc ces deux côtés et ces partenaires que nous avons voulu étudier en estimant, disons, que la partie européenne de la traite, qui est épouvantable, était relativement la mieux travaillée, la mieux étudiée, et que donc nous pouvions moins apporter que dans cette optique de s'intéresser aux hommes, aux femmes, aux enfants qui ont traversé l'Atlantique.
Quand il parle de perspective dominante, c'est évidemment cet accent que vous venez de rappeler qui a été mis sur ce qu'on appelle le commerce triangulaire.
Ceci, c'est la façon dont en France, surtout, on connaît la traite atlantique en pensant essentiellement à la grande période massive des plantations sucrières, c'est-à-dire entre le milieu du XVIIe et le milieu du XIXe siècle, avec comme acteurs principaux côté européen les Britanniques et les Français. Mais il y a eu tout l'avant et tout l'après. C'est-à-dire à partir du XVe siècle d'une part et au XIXe siècle de l'autre.
Éric Ménard.
Et je dirais même, il y a aussi pendant cette période séculaire, les liens directs qui se font entre les colonies équatoriales du Portugal en Afrique et le Brésil. Donc il y a ce schéma que l'on conserve et qu'on utilise beaucoup, y compris dans l'enseignement, qui est celui de la traite du commerce triangulaire. Il ne s'agit pas de le remettre en question, bien évidemment. Il s'agit de montrer que les flux de traite ne passent pas uniquement par l'Atlantique Nord. Il y a aussi des flux de traite qui passent par l'Atlantique. Et d'ailleurs, ce sont les premiers et les derniers, parce que ce sont ceux qui sont les plus tardivement interdits après le congrès de Vienne, puisque les Britanniques avaient prévu une tolérance.
Pour donner un ordre de grandeur, on estime maintenant qu'environ 45% du total des esclaves sont partis en droiture, c'est-à-dire directement d'Afrique en Amérique.
Mais des côtes du Congo ou d'Angola pour les Antilles.
Pour le Brésil, pour les Caraïbes, dans toutes les directions.
Ce qui est différent, donc, pour dire d'un mot pour ceux qui ne l'auraient plus en mémoire, que le commerce triangulaire supposait que des marchandises européennes étaient apportées en Afrique, vendues ou échangées contre des esclaves qui eux-mêmes étaient transportés dans ces mondes américains, dont les productions, sucre, café, tabac, coton, revenaient sur l'Europe. Alors, dans votre livre, puisqu'on parle des maillons de la chaîne avec Ibrahim Atioub, un maillon essentiel, peut-être évidemment le plus tragique, c'est celui que vous désignez, c'est à la page 42, je vous cite, « La malchance a voulu que le monde africain ait connu à la fois les traites, les plus grands marchés de traite ayant bien sûr été déterminés par des demandes extérieures au continent, et l'esclavage. À moyen et à long terme, cela devait se révéler politiquement et démographiquement catastrophique. » Et c'est là où se fait l'articulation très importante dans le livre entre l'importance de l'esclavage dans les sociétés africaines et, on le verra, son lien, ensuite, avec des marchés d'exportation d'esclaves, comme le dit votre texte, puisque les demandes extérieures vont se multiplier à partir, en particulier, du XVe siècle. Mais alors, vous avez voulu, Catherine Kokrividovitch, porter l'accent sur cet premier élément de ce terrible maillon de cette chaîne, c'est-à-dire l'esclavage dans les sociétés africaines. C'est un fait reconnu, mais qui peut-être n'a pas toujours été reconnu dans les dimensions qui sont les siennes.
Qui a parfois été plus ou moins consciemment oublié. Disons que l'important, c'est de distinguer être esclave, qui est un statut social, enfin, le plus bas, évidemment, et la traite des esclaves, qui est le commerce des esclaves, qui est quelque chose de tout à fait différent. Or, il me semble, et ça, je n'ai pas du tout à savoir si peu d'éthique, mais que toutes les sociétés anciennes ont plus ou moins connu l'esclavage, et que s'il n'y avait pas eu d'esclavage dans les sociétés africaines, ce serait bien les seuls au monde où ça n'ait pas existé. Donc, le fait d'utiliser des esclaves a existé préalablement à la traite atlantique, incontestablement. Sous quelle forme? Comment peut-on définir un esclave? C'est toujours un peu compliqué, mais les historiens ont travaillé sur la question avec le vocabulaire, les vocabulaires des langues africaines, et sont arrivés à la conclusion que l'esclave, c'était d'une part le mépris absolu, la non-existence sociale de l'esclave. On ne parlait pas d'esclave d'ailleurs parce que c'est une injure trop profonde que c'est comme si on disait à quelqu'un tu n'es rien si tu es esclave. Et par ailleurs, les esclaves comme partout dans le monde devaient être déracinés, enlevés de là où ils étaient pour pas qu'ils se sauvent. Tout simplement pour qu'ils ne retournent pas là où ils sont. Alors évidemment, le déracinement en traversant l'Atlantique était vraiment garanti, encore que certains sont revenus, l'exception bien sûr, mais c'était la même chose dans les sociétés africaines. Alors les anthropologues, les ethnologues anciens, et puis évidemment aussi les Africains qui essayaient d'expliquer que ce n'était pas pareil, et c'est vrai que c'était assez différent, on dit bon ben c'était pas vraiment de l'esclavage, c'était la captivité, c'est ce qu'on appelait l'esclavage domestique. Mais l'esclavage domestique, il y en a eu partout. Il y en a eu aussi sur les plantations américaines, de l'esclavage domestique. C'est pas parce qu'on est dans la famille qu'on travaille moins si on est esclave. Donc, tout ça dépend du maître, des organisations. Il y a eu des bons maîtres, des mauvais maîtres, de l'esclavage dur, de l'esclavage pas dur. Mais il y a eu de l'esclavage comme partout. Le fait est effectivement qu'à partir du moment où les marchés extérieurs sont devenus énormes, la demande en commerce des esclaves est devenue énorme, il a fallu en prendre de plus en plus et ça a provoqué un effet boule de neige. C'est pourquoi, effectivement, la conjonction des deux a été tout à fait dramatique pour les sociétés internes.
Encore un mot peut-être sur cette question, parce que dans son prologue, YouTube me dit que cet esclavage a été souvent supposé intégrateur et humanisé, ce qui renvoie à ce que vous dites, un esclavage domestique, patriarcal, à l'intérieur de la communauté, alors que lui et vous et d'autres historiens européens ou africains insistent sur l'aspect de la violence. D'où viennent ces esclaves,
absolument.
Et insiste aussi sur cet aspect que vous venez de mentionner de la dépersonnalisation, et ce qui paraît très important dans les sociétés africaines, le fait qu'on gomme dignité, honneur et identité en supprimant la relation entre la personne et ses ancêtres.
C'est très important, et Ibrahim Atiou, justement, lui-même l'a souligné, et les historiens africains le soulignent, le culte des ancêtres était fondamental dans toutes les religions du terroir, et les ancêtres, c'est le lien avec la divinité, les divinités, donc on doit honorer les ancêtres. L'esclave est enlevé à son lignage, à sa société, il n'a plus d'ancêtres, mais lui n'a plus d'ancêtres ou elle n'a plus d'ancêtres, mais ses descendants non plus. Si bien que la descendance est esclave à perpétuité dans des sociétés qui, surtout en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire celles touchées majoritairement par la traite atlantique, sont des sociétés très hiérarchisées. Socialement parlant, alors que bien entendu, dans toutes les sociétés maintenant, l'esclavage est illégal, on sait encore d'un tel ou d'un tel par le nom s'il descend d'un noble, d'un aristocrate ou d'un esclave. Et ce tabou social s'est maintenu très tardivement et pose encore aujourd'hui des problèmes.
Mais comment devient-on esclave dans ces sociétés africaines ? Est-ce que c'est les victimes ou les défaits des guerres ? Ou est-ce que ce sont d'autres pratiques qui permettent de faire basculer en esclavage? En général, vous le dites, non pas les personnes de la même communauté, mais des étrangers.
Oui, toujours. Alors, c'est ce qu'on oublie aussi. L'Afrique n'est pas un pays. L'Afrique est un continent immense avec plusieurs centaines, à l'époque, plusieurs centaines, sinon plusieurs milliers de formations politiques différentes, dont les différents États, parce que c'était des États, petits, moyens ou grands, s'entendaient bien ou se faisaient la guerre, absolument comme dans l'histoire européenne. Et donc, pour faire la guerre, surtout s'il y avait une demande d'esclaves extérieurs, en plus, on allait ratisser les villages et ce n'était pas tellement les prisonniers de guerre, parce que le système de rançon existait aussi. Les soldats, les guerriers étaient plutôt des nobles, donc ce n'est pas eux qu'on faisait. Mais c'était dans les villages, on ramassait tous ceux qui traînaient et on en faisait des esclaves, on les mettait sur les marchés et on les utilisait ou bien on les vendait. Et puis, au fur et à mesure que la demande a été de plus en plus importante, c'est-à-dire à partir du 16e, 17e siècle, alors le brigandage s'en est mêlé. Et dans les récits d'esclaves, on s'aperçoit que 9 fois sur 10, ils racontent qu'ils ont été enlevés. Enfin, il y avait 2-3 personnes, il y a 3 cavaliers qui sont arrivés, qui les ont emmenés, qui les ont vendus à un autre, qui les ont vendus à une caravane. Et au bout de 2-3 mois, ils se sont retrouvés dans des baraquons sur la côte atlantique. Donc c'est très variable.
Et un dernier trait, et puis nous allons passer à ce nœud tragique, c'est-à-dire avec les demandes venues de l'extérieur. Un dernier trait, c'est le cas de ces esclaves, dont femmes, donc qui ont un enfant avec un maître et qui là échappe à cette cycle infernal de l'hérédité de l'esclavage. Vous le montrez puisqu'on est là, vous mettez en rapport cette situation particulière avec la dominante matrilinéaire des sociétés
africaines.
Oui, ça
c'est aussi un élément, vous avez tout à fait raison, un élément très important. Le système dominant dans les familles était matrilinéaire, c'est-à-dire que la succession se fait non pas de père en fils, mais de la neveu utérin, c'est-à-dire le fils de la sœur. C'est-à-dire que le lignage important, c'est le lignage de la femme. Et les enfants appartiennent à la femme libre. Donc si la femme part, quitte son mari par exemple, elle va emmener les enfants. Et l'homme perd sa descendance, ce qui était fondamental dans une société où le pouvoir reposait sur le nombre et sur le nombre d'enfants. Alors, pour être sûr dans ce système de garder ses enfants, ben, l'homme allait prendre une esclave, concubine ou femme, enfin peu importe, il allait lui faire des enfants. Et comme cette femme n'avait pas d'ancêtres, les enfants appartiennent au lignage paternel. Et ça a été très utilisé dans des petites sociétés qu'on appelle lagunaires, par exemple, sur les côtes de la Côte d'Ivoire actuelle. Des sociétés où la démographie était fragile, où la descendance n'était jamais assurée, et où il fallait absolument être sûr qu'on allait pouvoir transmettre. Et donc ça existait depuis très très longtemps.
Alors Éric Ménard, on en vient à ce que vous décrivez avec un euphémisme, et tout le monde le comprend, comme la malchance, c'est-à-dire au moment où ce que vient de décrire Catherine Cochry se trouve mise en rapport avec les demandes extérieures, c'est-à-dire avec les demandes de marchés serviles en dehors de l'Afrique. Alors, quand est-ce que cela commence? Est-ce que ça commence avec le monde européen?
Alors déjà, c'est antérieur au monde européen, puisque nous avons des traces, et même des traces massives de déportation de populations d'Afrique noire vers le monde arabe. La révolte la plus fameuse a lieu au sud de l'actuel Irak, c'est la révolte des Zenj, et où il y avait déjà des plantations. Alors après avoir, on est dans des régions au sud de l'Irak, dans des régions de Delta, et après avoir fait... assécher ces régions de Delta, des milliers d'esclaves sont déjà exploités au 10e, 11e siècle par les Arabes de l'Empire abbasside. Et cette révolte a eu probablement, enfin c'est une hypothèse en tout cas, a eu probablement des effets importants sur la suite de la façon dont ces États là, arabes vont exploiter leur main-d'œuvre.
Mais à partir du 15e siècle.
À partir du 15e siècle. Alors là, quand on prend en compte les Européens, mais on ne peut pas oublier, je dirais aussi, cette antériorité dans l'espace méditerranéen, et notamment de cette exploitation, notamment pour le sucre, puisque le sucre va devenir le symbole, et non seulement le symbole, mais la réalité économique majeure de l'exploitation esclavagiste dans le monde américain. Mais il y a déjà des contacts, il y a déjà un savoir-faire qui est important en matière d'exploitation à tous les sens du terme. Ce sont les Portugais qui vont être les relais, je dirais, à partir du moment où ils vont commencer l'exploitation des côtes africaines. Dans un premier temps, leur projet n'est absolument pas un projet esclavagiste, mais ça coûte cher. Et ils vont s'insérer au fur et à mesure de leur découverte, entre guillemets, de leur voyage d'expédition. Ils vont s'insérer dans un commerce préexistant et ils vont traiter au sens ancien, c'est-à-dire commerce d'autres marchandises, mais parmi les marchandises qu'ils vont commencer à traiter, il y a aussi la marchandise humaine. Donc c'est quelque chose qui est très précoce ces échanges de population humaine, enfin cette vente de population humaine, cet asservissement est lié dès les premier temps de ce que l'on appelle traditionnellement les voyages de découverte européens.
Et ce que les Portugais venaient chercher au démarrage, au XVe siècle, ça n'est pas les esclaves qu'ils pouvaient recevoir précisément par le commerce transsaharien qui arrivait sur la Méditerranée déjà. C'est l'or de l'Ouest africain, en particulier de ce qui s'est appelé, ce qu'ils ont surnommé la Côte de l'Or, qui est devenue la Gold Coast, aujourd'hui le Ghana. Et c'est ça qui les intéressait. Et donc, effectivement, comme le dit Eric, le commerce des esclaves, c'est un commerce parmi d'autres qui nous montre d'ailleurs, dans les premiers récits, dès le milieu du XVe siècle, que les Portugais, au large de la Mauritanie, avaient contact avec des Africains venant, disaient-ils, de l'Empire du Mali, et qui leur apportaient de l'or et des esclaves. Les deux mondes n'étaient pas coupés l'un de l'autre.
Et dans l'expérience portugaise, vous signalez les deux aspects, c'est-à-dire d'une part que des esclaves qui deviennent esclaves domestiques dans les villes de la péninsule ibérique, et c'est un trait très important. À Lisbonne, en 1550, 10% de la population est une population noire, et on peut supposer que la plus grande partie sont évidemment esclaves.
On estime qu'au XVe siècle, alors que l'Amérique n'était pas encore découverte, pendant presque un siècle, l'espace a été luso-africain et 150 000 esclaves auraient été importés par les Portugais au 15e et à nouveau 150 000 au siècle suivant pour l'Europe du Sud. Portugal, Espagne travaillaient dans les mines, France du Sud et Italie.
Et puis de l'autre côté, effectivement, en dehors de mines ou des esclaves domestiques, cette exploitation sucrière que vous décrivez, qui commence dans les laboratoires des îles portugaises et qui va se développer fin 16e, début 17e, de l'autre côté de l'Atlantique, dans le Brésil ou dans les petites Antilles. Et vous donnez beaucoup d'importance en citant un économiste ou historien économiste, Pierre Dokes, à ce qu'il appelait le paradigme sucrier. Alors je peux en citer les traits. Préférence pour les îles et les Isola, enfin, d'en faire des sortes de camps de concentration. Alors là, on peut penser à Madère, aux Açores, à Saint-Thomé. Et il ajoute tendance à l'élimination des populations indigènes et au recours à des déracinés presque exclusivement des Noirs, avec les temps modernes. Et effectivement, ces laboratoires sont à la fois des laboratoires d'extermination ou de destruction des populations indigènes et d'importation des esclaves noirs. Tendance à la monoproduction, circuits commerciaux spécifiques et longs, du fait de la séparation spatiale des zones de fourniture d'esclaves, l'Afrique, de production du sucre, les îles atlantiques ou le monde américain, et de consommation, pour l'essentiel, l'Europe, et caractère précocement capitaliste de la production. Alors, est-ce que c'est avec cette réalité-là que s'explique ce que vous disiez, Catherine Cochris, c'est-à-dire le fait qu'il y a un commerce en droiture, on ne passe pas nécessairement par l'Europe, on va directement des côtes africaines jusqu'au monde où il y a des plantations sucrières, et est-ce que c'est cela qui explique aussi l'importance des intermédiaires entre les lieux où sont nés ces esclaves africains, et puis les lieux où ils vont se trouver en esclavage. Et c'est là où vous introduisez ce chaînon qui sont tous ces marchands libres ou même dans une organisation plus politique et étatique du commerce des esclaves.
Oui, alors c'est ce qui est passionnant et qui a été étudié très récemment par les historiens qui n'avaient pas exploré jusqu'à présent surtout les archives de l'Inquisition, les archives portugaises et espagnoles du 15e et du 16e siècle. Cette population des îles, en particulier des îles du Cap-Vert au 15e siècle et de Saint-Thomé à la fin du 15e siècle, où les Portugais arrivent en nombre limité, quelques dizaines, ils ce sont des hommes jeunes, ils ont besoin de femmes, ils achètent des esclaves sur la côte, et à la deuxième génération, c'est une société déjà totalement métissée. Les îles Cap-Vert étaient désertes, l'île de Saint-Thomé était déserte avant leur arrivée, donc elles sont peuplées très rapidement d'une population qui se mélange de plus en plus, dont tout le monde se dit portugais, parce que le portugais est la langue commerciale, mais je dirais à la limite, portugais est un terme commercial, ça n'implique pas la couleur, beaucoup de métis, et puis beaucoup d'Africains de la côte, de commerçants également, qui se mêlent à la question, et qui s'échangent, et finalement, vous avez en partie, disons grâce ou à cause de l'Inquisition, parce que vous avez eu l'immigration dans ces Portugais, probablement au XVe siècle, peut-être une cinquantaine de commerçants, et là-dessus, la moitié étaient des nouveaux chrétiens, c'est-à-dire les juifs et les musulmans, interdits par l'Inquisition à la fin du XVe siècle, obligés de se déporter, et dont un petit nombre sont des aventuriers qui réussissent comme les Portugais, donc ils sont probablement moitié-moitié dans les îles du Cap-Vert, et au XVIIe siècle vont à nouveau être obligés de fuir les îles du Cap-Vert parce que l'Inquisition ne croit absolument pas aux nouveaux chrétiens, et donc c'est une source formidable pour étudier, pour les historiens d'aujourd'hui, pour étudier la société de l'époque, dont vont s'installer sur les côtes de Sénégambie, où ils ont été étudiés également. Et là s'instaurent des réseaux dont on ne sait absolument plus s'ils sont portugais, brésiliens, sénégalais, en tous les cas tous portugais, et avec des réseaux, des liaisons avec Amsterdam, avec le monde méditerranéen, avec toujours éventuellement le Portugal et puis surtout le Brésil quand il intervient. Donc tout un espace culturel créolisé qui va avoir une très grande importance dans l'avenir. Et puis parallèlement à ça, qui est plus intéressant, je dirais, il y a la mise en place, comme vous le disiez, de l'économie de plantation proprement dite. Alors là, elle est vraiment installée définitivement de façon très ferme dans l'île de Saint-Thomé. C'est l'économie de plantation américaine, mais surtout avec des planteurs noirs ou métis. Il va y avoir des grandes révoltes, il va y avoir des marrons, des grandes révoltes qui vont détruire la possibilité de faire la canne à sucre. Et en 1500, les Portugais débarquent au Brésil et ils vont apporter avec eux les planteurs de Saint-Thomé qui vont transférer leur système au Brésil.
Oui, on voit la complexité de ces situations. D'abord, il y a des situations ironiquement tragiques dans le livre, c'est-à-dire par exemple lorsque des marchands d'esclaves deviennent esclaves eux-mêmes. Cela arrive à un certain nombre de ces intermédiaires africains, et dans les récits que vous citez, certains ont connu cette idée. Il y a aussi l'idée que lorsqu'on y a parfois des affranchis ou des rachats, un des premiers gestes, par exemple pour les Brésiliens qui deviennent ces Afro-Brésiliens dont vous parlez, qui retournent sur les côtes d'Afrique et deviennent eux-mêmes des intermédiaires, un des premiers gestes, c'est l'achat d'esclaves.
Oui, donc, absolument. Mais c'était l'économie dominante de l'époque.
La situation est tout à fait intéressante. Et d'autre part, il y a cet intérêt que vous portez sur ces créolisations atlantiques. Alors, on va passer à ce grand moment que Éric Ménard, où ce qui vient d'être décrit change d'échelle, puisque dans le livre, la période qui va des années, on va dire, 1670 jusqu'à 1860, est la période où vous dites 90% des esclaves qui ont traversé l'Atlantique ont été là, achetés, vendus dans ce qu'on appelle le Middle Passage, le grand passage entre l'Afrique et l'Amérique. Et à combien on peut estimer la totalité des esclaves qui ont été des esclaves atlantiques, on peut dire?
Alors, pour ce qui est de la déportation...
Pour la totalité.
Oui. Alors, il y a un site très intéressant qui synthétise les travaux de maintenant 30 ans d'historiographie. C'est le site Slave Voyage, où des collègues ont recensé et ont mis en ligne les différentes informations que l'on peut avoir à partir des expéditions négrières. On peut estimer, alors évidemment, dans les grands crimes de masse, les estimations sont toujours approximatives, et je dirais, dans l'approximation, il y a déjà quelque chose qui évoque cette horreur. On peut estimer, globalement, les historiens se sont mis d'accord, après de très longs débats, pour dire qu'il y a eu de 12 à 13 millions d'Africains déportés vers le monde américain, sans oublier, même s'ils sont minoritaires, mais ils existent aussi, le développement des îles Mascareignes, avec là aussi un déflux de traite de l'Afrique de l'Est et de Madagascar vers les îles Mascareignes. Mais les nombres là sont moins importants, mais pour les individus, évidemment, ça ne change rien, si j'ose dire, à leur tragique destin.
Alors là, on entre dans peut-être des éléments mieux connus, puisque c'est l'image de l'esclavage. D'ailleurs, un livre qui a été publié en même temps que le vôtre, de Marcus Rediker, qui a pour titre « À bord du négrier, une histoire atlantique de la traite », publié au Seuil, porte l'attention sur ce moment du Grand Passage. Vous l'abordez fondamentalement à partir de ces récits. Alors, disons un mot, pour clore peut-être cette première séquence, sur cette source, ces récits d'esclaves. D'abord, vous dites que pendant une période, ils sont seulement pour des esclaves qui avaient la capacité de les écrire, c'est-à-dire qui avaient une culture islamique, qui avaient été convertis à l'éducation et à la religion islamique. Et puis après, et avec un accent, vous dites, nous nous sommes particulièrement intéressés au récit de la première génération qui ont laissé des souvenirs de leur vie antérieure et de leur départ d'Afrique.
Mais c'était très important pour savoir comment ça s'est passé sur le continent africain. Et ça, la première source, c'est comment ils ont été enlevés, comment ils sont arrivés jusqu'à la côte. Et c'est là qu'on voit que, pour la plupart d'entre eux, dans la quasi-totalité des récits, ils ne sont pas très très nombreux, les premiers blancs qu'ils voient, c'est pratiquement sur le bateau. C'est-à-dire qu'ils ont pu être pris en esclavage 2 mois, 6 mois, 2 ans avant, et que tout le système caravanier était un système africain d'intermédiaires, effectivement, qui gagnaient leur vie en rapport avec la côte.
Et alors les autres récits, alors plus, plus nombreux. C'est les récits des esclaves américains.
Alors
et là, vous dites qu'il y en a à la fois, il y a même des récits oraux, c'est important.
Cette chose. Alors on peut distinguer, je dirais, deux types de récits. La première génération, on va dire pour simplifier, 18e siècle. Le récit le plus célèbre et qui a été le plus valorisé par les Britanniques est le récit d'Olada et Quiano. Ces récits, par définition, enfin ces écrits, puisque là, Olada et Quiano, c'est écrire. Il y a d'autres formes aussi de publications biographiques. Là, il faut faire le lien avec, parce que c'est pas le tout de pouvoir, c'est déjà très difficile de pouvoir écrire, mais après, il faut pouvoir être diffusé. Et là, il faut faire aussi le lien avec le développement de l'abolitionnisme, notamment dans le monde britannique, qui va valoriser et permettre à certains esclaves, très peu nombreux, exceptionnels, de publier leur récit. Il y a aussi un récit qui est très... Alors, il y a un récit d'Olaouda et Quiano qui est le plus célèbre. Il y en a quelques autres, assez peu. Il y a aussi un récit très intéressant, mais là, d'une femme, Mary Prince, qui est née esclave dans les îles antillaises et qui va mener un procès, ou plutôt c'est la femme de l'avocat qui mène le procès, qui va l'interviewer et qui va transcrire son récit. Donc là, il faut faire le lien. Si nous avons, pour le 18e siècle, la fin du 18e siècle, ces récits, il faut là faire le lien avec le développement du mouvement abolitionniste européen et plus particulièrement du mouvement abolitionniste britannique.
Et la grande masse de ces récits sont des récits qui ont été sur les États-Unis d'Amérique avant l'abolition de 1865, qui porte sur cette période, et dont un certain nombre, vous dites, la Library of Congress, dans les années 30, avait décidé de faire une quête systématique, et là, passant au récit oral.
Il est à noter que dans les colonies françaises, il n'y a aucun... Alors, on arrive par des procès, il y a différents moyens d'avoir accès indirectement, je dirais, à la parole des esclaves, mais dans les colonies françaises, il n'y a aucun récit d'esclaves, puisque Olala est dans l'espace anglo-saxon, Mary Prince aussi. Et aux États-Unis, il va y avoir un développement aussi de ces récits qui va se faire là encore en liaison avec les États du Nord et avec l'idée pour les abolitionnistes anglo-saxons, je dis volontairement anglo-saxons parce qu'ils ont quand même un projet commun. C'est de dire le simple fait de dire, il s'agit de montrer l'énonciation de ce qu'est la réalité de l'esclavage, je dirais, est un élément important pour condamner l'esclavage indépendamment, je dirais, ou en relation avec des principes généraux, mais le principe général pour eux ne suffit pas. Il faut aussi montrer et énoncer ce qu'est la réalité quotidienne de l'exploitation esclavagiste. Donc ces récits vont avoir effectivement une importance considérable dans le mouvement abolitionniste états-unien.
Alors, si on reprend le début de la chaîne, à l'époque brésilienne, là, on peut, alors quelques chercheurs l'ont fait, en anglais, reconstituer par les archives les itinéraires d'esclaves de façon relativement très précise. On en connaît un qui du XVIe siècle, qui a été esclave de plantation, qui avait un savoir un peu chamanique, médical, qui l'a utilisé pour finalement obtenir son affranchissement. Mais une fois affranchi, il a été accusé par l'Inquisition d'être sacrilège. Il a été envoyé au Portugal où il a été déporté. Enfin, bref, on peut reconstituer toute sa vie. Et ce qui ressort aussi de tout le récit, je dirais, effectivement, c'est la violence.
Still alive.
grâce à Bruce Springsteen, nous pouvons reprendre le fil de notre émission qui nous conduit maintenant fondamentalement du côté des sociétés esclavagistes du 19e siècle. Je rappelle que ceci est possible par la publication du livre de Catherine Cochry-Vidrovitch et Éric Ménard, Être esclave, Afrique, Amérique, 15e, 19e siècle, un livre publié aux éditions La Découverte. Alors, cette musique du Sud, ces musiques, ces chants d'esclaves qui ont été repris, y compris par des chanteurs d'aujourd'hui, nous renvoie, Éric Ménard, à une réalité très forte qu'on a peut-être oubliée, c'est-à-dire le fait que, dans le cas des États-Unis, une société esclavagiste va se développer massivement au cours du 19e siècle, à cause évidemment du coton, à un moment où la traite dont nous avons parlé jusqu'ici est légalement abolie, en particulier dans le monde anglo-américain, et puis plutôt en 1815, bien que les textes soient un peu confus, l'idée que la traite ne doit plus exister. Alors elle continue à exister, on en dira un mot, mais le fait le plus paradoxal et le plus puissant, c'est qu'on peut avoir des sociétés esclavagistes sans traite, ou avec une traite plus limitée. Comment est-ce possible dans les États du Sud américain ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs variables à prendre en compte. D'ailleurs, les esclavagistes eux-mêmes en sont conscients, puisqu'ils comparent le taux de mortalité, alors c'est pas exprimé en ces termes-là, mais ils constatent que le taux de mortalité dans les îles, alors le plus fort étant probablement celui d'Haïti, mais ils font aussi référence à Cuba, tant qu'il y a traite, le taux de mortalité est très fort, puisque globalement, en 4 ans, on a rentabilisé l'esclave. Donc la traite va permettre d'avoir une arrivée constante de population servile avec une espérance de vie très brève. Les Américains et les États-Unis abolissent effectivement la traite au début du 19e siècle. Et ils pensent, en tout cas les États du Nord et les abolitionnistes américains pensent, et ils sont d'ailleurs dans le schéma de pensée repris par les abolitionnistes dans leur ensemble, qu'on va commencer par abolir la traite et qu'avec l'abolition de la traite, progressivement, 2-3 générations, Condorcet a même calculé qu'il faudrait 90 ans pour que l'esclavage, je dirais, disparaisse progressivement de lui-même avec tout un système très complexe. Donc il y a cette idée que si on abolit la traite dans un premier temps, le maître aura intérêt à moins maltraiter puisqu'il ne pourra pas renouveler sa marchandise humaine et qu'à terme, on arrivera à une extinction progressive de l'esclavage par l'abolition de la traite. Il y a deux contre-exemples. Le premier contre-exemple, c'est le contre-exemple haïtien où il y a eu abolition de l'esclavage à la suite de l'insurrection saint-dominguoise haïtienne et par la France, abolition de février 1994. Donc, un exemple là où il y a eu abolition de l'esclavage sans qu'il y ait abolition de la traite, avant la restauration de cet esclavage par Napoléon Bonaparte en 1802. Et puis l'autre exemple, contre-exemple par rapport à ce schéma de pensée, d'ailleurs tout à fait intéressant des abolitionnistes, qui va plutôt là fonctionner, si je veux dire, pour les colonies britanniques, c'est l'exemple états-unien où, alors que la traite est abolie, on va voir se développer des plantations dans le Sud, et notamment et pour l'essentiel des plantations de coton, qui sont d'ailleurs liées à l'expansion territoriale elle-même vers les États du Sud, vers le Texas. Et on va voir quelque chose qui va être ce que les historiens appellent, ou ce qu'on va appeler, alors je mets des guillemets évidemment à cette expression, qui est un esclavage d'élevage, avec, y compris, on le voit, d'une part, dans l'ensemble, sauf peut-être en Louisiane, il y a toujours des contre-exemples, des exploitations plus petites. À ce propos, d'ailleurs, un film va sortir très bientôt qui s'appelle 12 ans d'esclavage, 12 Years of Slavery, qui est un film très très intéressant sur la violence, qui raconte l'histoire d'un homme libre qui a été razzié et qui a été esclavagisé pendant 12 ans et qui a écrit ses mémoires après avoir pu se libérer. Et il montre que beaucoup des planteurs sont des petits planteurs. Ce ne sont pas les grandes concentrations esclavagistes dont Haïti et Saint-Domingue est devenu le modèle. Et ces petits planteurs mettent en place un système paternaliste et encouragent, y compris, alors on ne peut pas parler de mariage, mais encouragent le fait que les femmes esclaves aient des enfants. Et l'on constate que les femmes esclaves dans les plantations du Sud des États-Unis ont 7-8 enfants, alors que les femmes dans l'espace Caraïbe, les femmes esclaves avaient beaucoup moins d'enfants, y compris que ce n'était pas dans l'intérêt du maître et que le maître n'avait pas intérêt justement à perdre de la main-d'œuvre pendant le moment où la femme était moins productive parce qu'elle était enceinte et voulait s'occuper de son jeune enfant.
Mais en analysant ces récits d'esclaves américains, on touche à un autre thème qui est le thème des résistances, puisque dans ce cas-là, on peut montrer que d'un côté, il y a une résistance par la fuite, lorsque les États du Nord ayant aboli l'esclavage deviennent un lieu où on peut tenter de passer lorsqu'on est esclave au Sud. Et d'autre part aussi sur ces plantations, on a des pratiques qu'on a trouvées préalablement, c'est-à-dire des pratiques de sabotage, des pratiques très souvent sur les moments de la traversée, les mutilations ou les suicides. On est très frappé dans les textes que vous citez, on n'a pas le temps, mais le lecteur les retrouvera, des peurs terribles, la peur d'être mangé qui revient comme un thème obsédant. C'est ce que vous disiez, Catherine Coquille, l'idée qu'ils n'ont jamais vu d'Européens ou de Blancs, la plupart, puisqu'ils ont été du centre de l'Afrique. Et d'autre part, sur l'idée que finalement le suicide est préférable à cette cruauté. Est-ce qu'on peut faire un bilan plus général de ces formes de résistance ?
Ah ben, il y a eu des résistances partout. Alors, le côté américain, on les connaît relativement bien. Enfin, il y a eu l'extraordinaire événement d'Haïti, justement, qui est le triomphe de la résistance dès le début du XIXe siècle, et qui a beaucoup inquiété les Occidentaux, évidemment, puisque l'esclavage n'est pas du tout supprimé ailleurs. Et donc, il y a une espèce de cordon sanitaire autour d'Haïti qui s'est organisé tout le XIXe siècle pour empêcher la contagion. Côté africain, il y a eu des révoltes. Mais c'était beaucoup plus difficile dans la mesure où être esclave était un statut enraciné et, comme je l'ai expliqué, qui était dont on ne pouvait pas se défaire par une révolte. On restait de statut esclave même si on décidait qu'on ne l'était plus. C'est plus compliqué. Il y en a eu, en tous les cas, les vraies révoltes type plantation, c'est ce qui a eu lieu à Saint-Thomé, avec un grand rebelle qui finalement évidemment a été pris et mort et la révolte a été écrasée, mais ils avaient quand même détruit l'économie de plantation de l'île auparavant. Il y en a eu d'autres. Alors au XIXe siècle, on a fait l'histoire de grands conquérants de l'Ouest africain. C'est une autre histoire, mais qui quand même est plus ou moins reliée à cette histoire de l'esclavage aussi, comme qui a fait un empire qui est parti de Sénégambie et qui, repoussé par les Britanniques et les Français, part de plus en plus vers l'Est et finalement est vaincu par un vaste soulèvement, probablement des esclaves qu'il a soumis. Mais ça n'a jamais été étudié sous cette forme. Je pense que c'est une forme de résistance très forte, justement, à un nouveau système esclavagiste qui s'est installé à ce moment-là.
La question des résistances est un enjeu historique et mémoriel essentiel aujourd'hui, notamment dans l'espace antillais. Alors, avec une figure aussi aujourd'hui qui apparaît, il y a eu un colloque récemment à la Guyane, fort intéressant, une figure nouvelle, je parle du point de vue mémoriel, et qui est mise en valeur, qui est la figure du marron, et un marron qui est très souvent...
Alors un marron, c'est un esclave qui a fui. Plantation, c'est un esclave et qui a fui. Sa condition.
Mais on évoquait Alors, différentes formes de révolte qui sont, et tentatives de révolte, et combien nous en connaissons évidemment très très peu. Nous les connaissons quand elles aboutissent, que ce soit par la répression ou par parfois leur victoire très exceptionnelle, mais révolte à bord d'une part. Espoir aussi, et ça les maîtres le savent, les négriers le savent. Espoir, tant qu'on est sur les côtes d'Afrique, on espère, parce que tant qu'on les voit. Le problème après, c'est quand on est de l'autre côté ou quand on traverse cette longue et terrible traversée avec là plus de désespoir. Révolte à bord et puis après différents types de révolte ou de résistance, de formes de résistance lorsque l'on arrive de l'autre côté. On voit par exemple les tentatives de fuite les plus fréquentes sont celles de ceux qui viennent d'arriver. Ce sont des tentatives désespérées parce qu'ils arrivent, ils ne parlent pas la langue et ils se font très souvent prendre. Ceux qui arrivent qui s'en tirent le mieux à marronner, c'est-à-dire à quitter la plantation, ce sont ceux qui connaissent déjà, qui parlent créole, qui connaissent déjà. Et notamment, à son éditorien, on travaillait sur la possibilité aussi d'aller vers les villes, parce que dans la ville, on arrive à se cacher avec des complicités, y compris des intérêts, y compris on sait que des petits blancs ont intérêt à avoir des gens qui ne sont pas apparemment des esclaves, mais que l'on sait être esclave, ce qui permet de les payer un petit peu moins bien quand on n'a pas soi-même accès à l'achat de l'esclave. Donc il y a toutes sortes de, je dirais, d'aménagements, d'accommodements dans ces sociétés qui sont évidemment plus complexes que, et qui ne se limitent pas uniquement à des oppositions noir-blanc. Et puis je crois qu'il faut aussi tenir en compte, et on a un certain nombre d'écrits à ce propos, du savoir-faire, aussi bien de ceux qui organisent les traversées, des capitaines négriers, il y a des manuels pour devenir un parfait négrier avec toutes sortes de conseils. Par exemple, un conseil que l'on donne aux marins, c'est qu'il ne faut jamais boire de vin au moment de vin rouge, au moment où on fait monter les nègres à bord, parce que ça renforce cette crainte que certains expriment, dont Oulada et Cuyano, ils craignent qu'en fait on soit en train de boire leur sang. Donc il y a un savoir-faire militaire, psychologique, de violence, de répression, d'exemplarité de la violence contre ceux qui auraient l'idée de se révolter. Autre élément aussi qui est quelque chose de très important dans la mémoire et dans l'histoire du monde afro-anti ou afro-américain, c'est toute la question du viol. Puisqu'un certain nombre d'esclaves abordent cette question des violences sexuelles qui sont faites contre les femmes, évidemment à bord du bateau, mais aussi dans le cadre de la plantation.
Et alors, il y a une histoire très intéressante d'une jeune esclave, Harriet, qui a raconté sa vie une fois qu'elle est passée au Nord. Elle a finalement obtenu sa liberté et elle a un récit d'esclave, un récit tout à fait extraordinaire. Et pour échapper aux assauts sexuels de son maître, qui est un très méchant maître, elle se débrouille, si je puis dire, pour aller coucher et se faire faire des enfants avec un ami du maître, ce qui lui, et elle explique qu'elle le fait justement pour ne pas céder au maître. Enfin, les esclaves sont amenés à des stratégies d'accommodation et de résistance tout à fait extravagantes.
Alors le livre étudie aussi les effets de ce terrible phénomène sur différentes parties du monde, c'est-à-dire à la fois les effets sur le monde américain et ce que vous décrivez comme des effets d'hybridation, de métissage, la question des rites, des contes, des légendes, enfin, tout un ensemble de créolisation dans ce sens-là, c'est-à-dire de rencontres entre des traditions différentes. On pourrait, vous le faites aussi, étudier les effets sur les sociétés post-esclavagistes. Et c'est là où parfois le diagnostic reste un peu sombre, puisque les contrats de travail salariés qui sont par exemple à Haïti ou dans d'autres colonies sont pratiquement des contrats de travail forcés. Alors il n'y a plus le statut légal de l'esclavage, qui est quelque chose, mais évidemment les conditions de travail, et puis aussi le fait du déplacement sur la ségrégation raciale, c'est-à-dire ce problème de la naissance, qui est un autre thème passionnant du livre et de toutes ces recherches sur le moment où on passe des Portugais qui peuvent être de couleurs variées à une ségrégation raciale qui est l'héritage du Sud. Bon, peut-être on peut en dire un mot, mais ce que je voudrais, puisqu'il nous reste peu de temps, c'est que, mais peut-être vous voulez intervenir
non, je voulais
moins avant qu'on revienne à l'Afrique, puisque oui, nous partîmes de l'Afrique.
Mais je voulais aussi insister sur un point, c'est justement le propos, enfin, ce qui avec Catherine a fait que nous avons voulu écrire ce livre. Notre propos, c'est de montrer à quel point les esclaves sont acteurs. Oui. Acteurs à tout point de vue, y compris, par exemple, on connaît la figure d'Uncle Ben, hein, la culture du riz en Amérique vient aussi d'Afrique. Les esclaves sont acteurs. Alors, on a tendance, et je comprends pourquoi, à valoriser les formes de révolte les plus violentes, mais il faut aussi prendre en compte le quotidien. Et là, il y a des formes de survie. Il y a aussi une grande division du monde noir américain, avec les maîtres qui jouent constamment justement sur la division entre les nouveaux arrivés, les anciens arrivés, les domestiques. Enfin, il y a toute une stratégie des maîtres pour justement arriver
et
à
une stratégie des esclaves.
Et face à cette stratégie des maîtres, alors il y a aussi une très grande peur des maîtres. Hein, ça fait partie aussi des grands problèmes qu'on travaille sur les sources judiciaires. La très grande peur des maîtres, notamment cette grande peur de l'empoisonnement. Puisqu'on attribue à certains, et on le voit dès le début avec les récits des dominicains comme là-bas ou comme le père Breton, on attribue, à juste titre d'ailleurs probablement, et même pas probablement, certainement, à certains esclaves la connaissance par exemple des plantes. Et on a une grande crainte de la possibilité notamment que le personnel domestique empoisonne les maîtres.
Ce que vous dites est particulièrement vrai pour les études que j'ai pu lire plus récentes sur le Brésil, où dans la situation du 19e siècle, on voit des esclaves qui vont dans les villes et qui partent un certain nombre de petits travaux d'artisans, de petits commerces peuvent se racheter, qui peuvent avoir recours aux notaires. qui peuvent avoir aussi parfois recours à des procédures de justice. Donc c'est vrai Absolument. Que la situation est très complexe.
Et certains sont marins.
Ils sont très au fait et on a plusieurs exemples, 15e, 16e siècle, d'esclaves qui estiment qu'ils ont été mis en esclavage en Afrique de façon illégale par rapport à la colonie de l'Angola, qui est déjà une colonie à l'époque, et qui vont faire recours et quelquefois qui gagnent. Ils ne sont pas du tout nécessairement démunis. Enfin, les résilients sont finalement tout à fait existants et tout à fait actifs.
Mais vous terminez le livre avec une réalité plus sombre, c'est-à-dire que vous analysez quels sont les effets sur ce point de départ, c'est-à-dire des traditions de mise en esclavage et de travail servile dans les sociétés africaines, quelles sont les conséquences sur ce phénomène dès la réduction qu'on vient de voir de la traite et finalement de l'esclavage, mais en particulier de la traite qui était dans ces maillons de cette chaîne que vous étudiez un point essentiel. Et là, vous montrez que dès le départ, on maintient au XIXe siècle en Afrique à la fois de grands marchés d'esclaves et d'autre part, des États qui, comme ceux du XVIe ou du XVIIe siècle, mais à une échelle souvent plus grande encore, vous parlez de Dahomey, vous parlez de l'Empire Ashanti, sont pour partie fondés sur ce trafic des esclaves. Alors comment on peut expliquer cette apparente contradiction? La traite ne disparaît pas totalement, il y a un trafic de contrebande, mais se réduit, ces marchés extérieurs occidentaux et américains se tarissent, et de l'autre côté, cette très grande persistance esclavage africain.
Ça n'est pas une contradiction, en fait. Je dirais que c'est un effet pervers, apparemment paradoxal, mais en réalité tout à fait normal, parce que ce qui préoccupait les Occidentaux, c'était la traite occidentale. Et l'interdiction de la traite imposée par les Britanniques entre 1807 et 1815, c'est vraiment une volonté de contrôler l'Atlantique et d'empêcher en particulier la France de pratiquer la traite.
Le Portugal aussi.
Le Portugal encore que les Britanniques tolèrent la traite au sud de l'Équateur, c'est-à-dire entre le Brésil, l'Angola et le Mozambique, jusqu'en 1840-1850. Donc, ce qui explique d'ailleurs pourquoi les Portugais reprennent tellement le trafic en main dans la première moitié du 19e siècle. Mais les Européens ne s'occupent absolument pas des souverains et de l'organisation africaine, où les réseaux se sont mis en place, comme vous le dites, et se sont énormément développés.
Enfin, c'est vous qui le dites.
ils se sont énormément développés à cause de la demande, en particulier entre 1760 et 1840, qui est le moment d'intensification maximum de la traite atlantique, donc toute une partie de contrebande, la moitié de contrebande. Ces réseaux ne vont pas disparaître comme ça du jour au lendemain, d'autant que, bien sûr, il y a quelques envoyés qui disent aux chefs, aux rois de côtiers, il faut que vous arrêtiez la traite, mais c'est très rémunérateur. Ils ne veulent pas et ils ne peuvent pas parce que tous ces réseaux se sont diversifiés à l'intérieur de l'Afrique. Alors, à partir du moment où le marché extérieur commence à se réduire, la production, entre guillemets, la production d'esclaves, elle ne se réduit pas. Elle va suivre, peut-être, c'est un petit peu le même phénomène de ce que les Américains envisageaient pour la disparition d'esclavage, mais non, il ne disparaît pas, il augmente au contraire. Parce que tous ces esclaves qu'on ne peut plus vendre, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, il faut bien les utiliser. Et vous avez deux grandes formes, je schématise de façon très, très abusive, vous avez des grands empires de conquête, avec les esclaves qui deviennent les soldats. C'était le cas de ce que je parlais tout à l'heure avec El Hadj Omar, dont le nom m'échappait, qui justement a fait des conquêtes telles que finalement elles se sont révoltées. Et puis les autres, on les a mis au travail. Et on les a mis au travail de façon très analogue, évidemment, toutes choses égales d'ailleurs, avec ce qui se passe avec le coton américain. C'est-à-dire que l'Afrique devient productrice de matières premières pour la révolution industrielle. En particulier, les oléagineux tropicaux, huile d'arachide, huile de palme, huile de coco, etc. D'autres demandes comme l'ivoire. Enfin, beaucoup de demandes pour l'industrie européenne, ben on met les esclaves au travail. Et vous avez la mise en place de ce que j'appelle pour le 19e siècle, ce qui n'était pas le cas avant, dans les sociétés africaines, d'un mode de production esclavagiste. C'est-à-dire que les esclaves qu'on ne peut plus vendre à l'étranger, eh ben on les utilise sur place. Alors ça se développe évidemment encore plus en Afrique orientale, où vous avez la domination de l'Empire d'Oman qui s'étend sur Zanzibar, qui devient l'Empire de Zanzibar à partir de 1840, et qui organise en grand des plantations esclavagistes sur toute la côte orientale d'Afrique. Et d'une certaine façon, vous avez un transfert du trafic des esclaves qui passe de l'Atlantique à l'océan Indien.
Oui, ça sera pour moi l'occasion de rendre hommage aux travaux d'Yves Bénaud qui a écrit un magnifique livre, enfin une série d'articles sous le titre de la modernité de l'esclavage. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelque chose où il y a effectivement, et c'est ce qu'on a eu du mal à comprendre, coexistence entre une forme de capitalisme très dynamique, y compris avec un marché international, et d'une forme d'exploitation qui semble, et qui est une exploitation particulièrement barbare, mais cette coexistence fonctionne. On l'a vu avec le coton américain en articulation avec le développement industriel de la Grande-Bretagne et du Nord américain. Et on voit, y compris là, je vais faire référence à l'actualité la plus immédiate, on voit bien que dans tel état... on va le dire très clairement, il s'agit du monde arabe et là il s'agit de ce qui se passe pour l'instant. On voit bien qu'il y a une dénonciation de pratiques d'exploitation. Alors, après en droit, l'enjeu n'est pas là, mais on voit bien qu'il peut y avoir une très très grande modernité et en même temps maintien de formes d'exploitation particulièrement barbares et qui semblent être, et qui le sont, mais qui semblent être pour beaucoup, qui sont perçus pour beaucoup comme étant des formes d'exploitation qui remonteraient à des temps beaucoup plus lointains.
Et qui se traduisent de façon très concrète au début de la colonisation par le fait que les puissances coloniales tardent, qui ont supprimé depuis très longtemps l'esclavage dans leurs propres colonies, tardent souvent jusqu'au début du XXe siècle à interdire l'esclavage dans les sociétés africaines, considérant que c'est une affaire interne qui ne les regarde pas.
Mais en rapport à ce que vient de dire... Vous montrez aussi que dans certains États contemporains, dans ce monde africain, par exemple la Mauritanie, il y a des lois qui interdisent l'esclavage et qui sont toutes récentes. La dernière que vous citez est de 2012.
Oui, il y a eu 3 lois successives. Et le fait qu'on soit obligé de faire de nouvelles lois prouve précisément que la loi n'est pas appliquée. Parce qu'il y a cet héritage historique et culturel très pesant qui se complique des rapports Nord-Sud, etc.
Un tout dernier mot, Catherine Coquet, dans un entretien que vous aviez donné au journal Le Monde, vous dites « On peut expliquer les violences contemporaines en Afrique en leur reliant à cette histoire-là, c'est-à-dire l'histoire de l'esclavage. » Alors peut-être des violences, peut-être pas toutes.
Oui,
mais
non,
qu'est-ce que vous vouliez dire en
absolument.
Une minute, puisque le temps nous a manqué
On le dit de la société américaine. Les violences américaines sont dues à son histoire de l'esclavage interne. Eh bien, je pense qu'on peut faire un raisonnement analogique. Une certaine nombre... Cette économie de violence, cette politique de violence qui a quand même dominé pendant plus de 3 siècles l'économie africaine dans son ensemble, ne peut pas ne pas avoir laissé des traces, et ne serait-ce que des vieilles antinomies entre ce qu'on peut simplifier en disant les peuples radzeurs et les peuples radziers. C'est une histoire qui a compté, et c'est une culture de la violence aussi qui possiblement a laissé des traces. Ça n'est pas la seule explication, bien entendu, mais c'est un facteur pesant de l'histoire.
Je rappelle que cette émission, cet après-midi, a été consacrée au livre de Catherine Coquerie-Vidrovitch et Éric Ménard, Être esclave, Afrique, Amérique, 15e, 19e siècle. C'est un ouvrage publié par les éditions La Découverte et on peut lire en parallèle le livre de Marcus Rediker, À bord du négrier, une histoire atlantique de la traite, un livre publié aux éditions du Seuil. C'était les lundis de l'histoire, présentés aujourd'hui par Roger Chartier. La prise de son de l'émission a été assurée par Emmanuel Couturier, la réalisation par Ghislaine David. La semaine prochaine, cette même émission des lundis de l'histoire vous sera présentée par Philippe Levillain. Et dans quelques instants, Marie Richeux vous dira « C'est pas la peine de crier ».